dans le monde du 7e art, il y a des récompenses pour les films avec les cérémonies des Oscars aux États-Unis ou des Césars en France. Et on range ces récompenses en diverses catégories. Alors on a le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur acteur dans le premier rôle, dans le second rôle, meilleur costume, bref, toutes sortes de catégories. Or, dans l'évangile de ce jour, si nous pouvons donner sans conteste un César à Marie et à Jésus pour leur rôle principal, nous pouvons également décerner un César du meilleur second rôle à un personnage si discret mais tellement efficace, j'ai nommé l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint est vraiment cet acteur de nos vies qu'on ne voit pas directement, toujours en coulisses, mais toujours actif. Si on accepte, évidemment, de les laisser agir. Saint Augustin l'appelait l'hôte silencieux de nos âmes. Mais il est vrai qu'il reste la personne de la Trinité avec laquelle nous avons le plus de mal à rentrer en relation. Et pourtant, son action est inséparable de celle du Père et du Fils. Lorsqu'on regarde un tableau ou une peinture, on s'extasie devant l'œuvre issue des mains et de la pensée de l'artiste. On s'émerveille de la beauté et de la diversité des couleurs. Mais on oublie souvent, enfin du moins on ne pense pas, à la toile sur laquelle cette peinture a été réalisée et qui sans elle n'aurait pas pu exister. Ainsi, le Père ne crée rien sans l'Esprit et le Fils n'agit jamais sans lui. Nous l'avons bien vu dimanche dernier dans l'évangile du baptême du Christ où l'Esprit-Saint est descendu sur lui, manifestant ainsi cette unité pour tout son ministère. Mais attention, le risque c'est de voir l'Esprit-Saint comme une sorte de majordome céleste, le chef des serviteurs ou un outil entre les mains de Dieu. Non. L'Esprit-Saint est bien l'égal du Père et du Fils. Il agit avec eux et comme eux. Vous savez, c'est la signification de cette phrase du Credo. Il est Seigneur et il donne la vie. Il procède du Père et du Fils et il reçoit même adoration et même gloire. Sur un pied d'égalité avec le Père et le Fils. C'est donc bien avec la puissance de l'Esprit-Saint que Jésus agit. Et notamment dans l'évangile de ce jour qu'il manifeste le premier des signes, témoignage de sa propre divinité et de cette union intime avec l'Esprit-Saint. Alors si l'Esprit-Saint agit indéniablement avec le Père et le Fils, il agit, du moins il veut agir, à travers chaque être humain et déployer toute sa puissance en nous. Dans l'Évangile, c'est Marie qui nous en donne le meilleur exemple au cours de ses noces. Elle qui est comblée de grâce depuis sa conception et qui a accueilli pleinement la puissance de l'Esprit-Saint au jour de l'Annonciation. Voyez comme dans ce passage, elle est pétrie de la présence de l'Esprit d'amour en étant toute attentionnée à ses époux pour qui le manque de vin risque de gâcher la fête. Voyez avec quel esprit d'audace et de force elle se tourne vers son Fils et son Dieu pour lui demander une faveur, alors que, nous l'avons vu, ce n'était pas prévu dans le plan du Christ. C'est encore l'esprit de conseil et d'intelligence qui lui permet d'inspirer l'écoute et la confiance chez les serviteurs qui s'en remettent sans broncher à Jésus. Oui, c'est parce qu'elle a toujours su laisser l'Esprit de Dieu agir pleinement en elle, qu'on l'appelle l'épouse du Saint-Esprit. Merci Marie de nous montrer un si bel exemple de confiance et de docilité à l'Esprit-Saint. Oui, car comme je l'ai dit, l'Esprit ne veut pas agir uniquement avec le Père et le Fils, mais également en nous et avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire d'un évêque qui effectue une visite pastorale dans une paroisse originellement très difficile, dans laquelle il a tout juste envoyé un prêtre. Et il s'émerveille devant les résultats de son ministère et devant toutes les belles choses qui s'y vivent désormais. Alors désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l'humilité de son prêtre, il dit au curé de la paroisse « Ah, quel magnifique travail l'Esprit-Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire !»« Oui, monseigneur, » répond le prêtre, « mais vous auriez dû voir l'état de la paroisse lorsque l'Esprit-Saint était seul à s'en occuper. » Nous pouvons dire, en effet, sans se tromper, si on accepte la présence de l'Esprit dans notre vie, que notre action dans la foi et la charité est 100% l'œuvre de l'Esprit-Saint et 100% l'œuvre de l'être humain que nous sommes. C'est ce qui permet à saint Paul, dans cette deuxième lecture que nous avons entendue, d'affirmer sans hésitation que l'Esprit agit en chacun de nous, par nos charismes, nos dons, nos qualités. Si nous pensons ne pas en avoir, eh bien, ça nous donne un petit chemin de conversion, de cette confiance dans le fait que l'Esprit nous a tous et chacun donné des dons à mettre en valeur, à faire fructifier. Une telle variété, mais un seul Esprit. C'est pour ça que saint Paul dit aussi que nous pouvons être le temple de l'Esprit-Saint. C'est merveilleux, chacun des petits temples de l'Esprit-Saint. Là encore, il y a une petite histoire d'un enfant qui avait bien compris cela au caté et qui donc avait bien retenu le fait qu'il était temple de l'Esprit-Saint. Et puis un jour, à la maison, il fait une grosse bêtise et il se prend un coup de pied au derrière de la part de son père. Alors le garçon, il se décourage pas et il lui dit « Tu viens de faire un gros péché. Tu viens de donner un coup de pied dans le temple de l'Esprit-Saint. » Alors le père lui répond du tac au tac « Dans la sacristie peut-être, mais certainement pas dans le temple. » Oui, accueillir l'Esprit-Saint, voici cette invitation qui nous est faite aujourd'hui en l'appelant simplement, en acceptant sa présence. Il ne suffit de pas grand-chose finalement que l'inviter chez nous. Alors certes, il y a un risque de chamboulement. Un théologien protestant allemand disait même « Celui qui prie, viens Esprit-Saint, doit être également prêt à prier, viens et bouscule-moi là où je dois être bousculé. » Et un grand saint de l'Église orthodoxe russe, Séraphin de Sarov, osait même dire « Le but de la vie, c'est l'acquisition de l'Esprit-Saint. » Eh bien, chers frères et sœurs, c'est cette invitation, je le répète, qui nous est donnée en ce jour, nous laisser envahir par l'Esprit de Dieu. Et comment savoir qu'il est bien en nous, que nous l'avons bien laissé entrer dans notre cœur et agir à travers nous? Eh bien, il suffit de se fonder sur la liste des fruits de l'Esprit-Saint qui nous est donnée par saint Paul dans sa lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Tous ces beaux fruits manifestent la présence de l'Esprit-Saint. Si on se rend compte que c'est tout le contraire dans notre vie, eh bien nous savons que nous devons prier davantage pour l'inviter dans notre cœur. Amen.